Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est une combinaison de dégoût et de colère qui a poussé Marie-Josée Monzin à écrire ce petit livre très érudit. Elle couche la pensée sur le papier pour se réapproprier notre langue, une langue dénaturée par le flot ininterrompu de l'actualité et du divertissement qui, selon elle, manipule les images et confisque les mots. Or, parmi les mots que martèlent les médias, il en est un qu'elle veut arracher absolument à ce que l'époque en a fait, celui de radicalité. Aujourd'hui, on se radicalise et on déradicalise à longueur de journal télévisé. Pourquoi contrecarrer ce mot plutôt qu'un autre? Comment le bain visuel et sonore dans lequel nous trempons façonne-t-il notre conscience politique et surtout notre capacité d'agir? Bonjour Marie-Josée Monzin.
Bonjour, merci.
Confiscation des mots, des images et du temps vient de paraître aux éditions des Liens qui libèrent.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors un petit mot d'actu d'abord. Le CSA publiait hier son rapport sur la part qu'accordent aux femmes les télés et les radios. Et quitte à faire la leçon, eh bien autant commencer par soi-même. Voici mes invités de la semaine dernière. Florian Philippot, bonjour.
Bonjour.
Ali Badou, bonjour.
Bonjour Sonia.
Bonjour Guillaume Dubois.
Bonjour.
Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Bonjour Hélène Barrier.
Bonjour.
Les femmes sont toujours sous-représentées à la radio et à la télé. Seulement 38% de personnes à l'antenne sont des femmes. Et encore, c'est un peu mieux en télé qu'en radio, même si aux heures de grande écoute, genre 18-20 heures, leur proportion régresse. Sur France Inter, vous entendez 68% d'hommes, comme sur toutes les stations publiques et privées, hein, RTL, Europe, etc. C'est la même chose, France Culture, France Musique, sauf RMC et France Info, qui font un petit peu mieux. On ne compte que 60% d'hommes. Quelques chiffres en télévision. Les chaînes publiques font mieux que le privé. Carton rouge pour TF1 et pour Canal+. Quand France 2, France 3, France 4 et France 5 aussi entre 36 et 43% de femmes à l'antenne. Et puis sur France 2, on trouve même plus de femmes que d'hommes. C'est intéressant et c'est important de le remarquer. Sinon, les clichés ont la vie dure. Sur l'Équipe TV, chaîne de sport, seulement 14% de femmes. Sur RMC Découverte, chaîne de documentaires spécialisée dans les chercheurs d'or, les gros cylindrés, les catastrophes climatiques, 81% d'hommes, mais beaucoup plus de femmes côté Chérie 25, W9 ou Sister, chaîne conçue sur mesure pour les ménagères. Un dernier chiffre, les chaînes d'info accordent de la place aux femmes, elles y sont représentées à hauteur de 40%, mais sur BFM TV par exemple, eh bien 77% des experts et 78% des invités politiques en plateau sont des hommes. Je vous laisse réfléchir à tout ce que ça signifie des médias français, mais aussi de notre société. Voilà pour l'actualité des médias. Vous connaissez peut-être le travail de la philosophe Marie-Josée Monzin sur l'image. Toutefois, le bain dans lequel nous trempons en permanence n'est pas seulement visuel, il est aussi sonore. Au-delà de l'image, il implique également le langage. On va écouter Manuel Valls. Il était au Sénat.
Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser.
Voilà, Marie-Josée Monzin, vous n'êtes pas la seule et unique à avoir bondi littéralement, à avoir hurlé, cherché à expliquer, c'est déjà excusé. Vous dites faire de la philosophie, c'est penser une action politique, c'est partager des gestes de résistance, c'est construire la collaboration des colères. Nous allons parler de la façon dont vous voulez vous réapproprier la langue, mais d'abord, il y a peut-être quelques précautions à prendre. Vous n'êtes pas pour une langue immobile, vous n'êtes pas pour une langue figée.
Pas le moins du monde. J'ai pas imaginé, même au sujet de la radicalité, qu'il s'agissait de sauver la substance d'un mot qui serait sacralisé et interdit de se mouvoir. Au
voilà,
contraire.
Ni même d'en figer l'usage.
Voilà. Ce qui m'a paru le plus scandaleux, c'est l'usage de plus en plus paralysé déstabilisant quand faisait l'actualité dans la communication qu'on appelle politique ou dans la communication tout court. Donc, c'est redonner aux mots leur vitalité. Leur vitalité, c'est la capacité qu'ont les mots de générer de l'invention, de la création, de l'émotion et de l'espoir.
Alors on va y venir à ce terme de radicalité, voilà. Mais surtout, vous dites qu'il n'y a pas plus menacé que les mots aujourd'hui par la langue du marché mondial verbal, par une sorte de novlangue, une sorte de globiche qui fait plus qu'aplatir le langage, hein, qui l'absorbe et qui le fait dériver.
Tout à fait. Ce travail sur l'aplatissement de la langue, qui en fait d'ailleurs une sorte de langue unique. Finalement, un mot comme la radicalité ferait presque partie des intraduisibles de la vie politique, c'est-à-dire de ce qui se pétrifie et nécrose la pensée, mm-hmm. au lieu de devenir une proposition mobile et mobilisante, hein, offerte à la création et à l'imagination collective.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Change has come to America.
La réplique a surpris tout le monde.
The war is coming to an end.
Une nouvelle vague qui se présente donc sur...
Muammar Kadhafi a été tué dans la région de Sirte.
Les Français ont choisi François Hollande.
Alors, il faut dire un mot aussi, avant de plonger dans cette question de la radicalité, sur ce que vous appelez la rhétorique de la terreur, sur ce que vous qualifiez de sentiment d'impuissance et d'effroi, qui place évidemment la pensée dans une ornière, qui est celle de tout lecteur, téléspectateur, auditeur, face au flux ininterrompu de l'information, qui, vous le dites, anéantit par sa nuisible répétition la possibilité même de toute nouveauté.
Je remarque qu'on appelle les nouvelles ce qui se renouvelle assez peu,
ouais.
Ce qui se ressasse chaque jour. Et évidemment, la radicalité a fait partie d'un front lexical qui a accompagné l'état d'urgence, la réponse à ce qu'on a appelé la terreur, la réponse à ce qu'on a appelé la barbarie, mmh. et l'obligation pour tous d'accepter un régime sécuritaire. Et ce qui est assez drôle, si ça n'était pas triste, c'est d'entendre par exemple Monsieur Juppé qualifiant Monsieur Fillon de radical. Donc on se rend bien compte à ce moment-là que les mots sont comme des pièces jaunes. Enfin, c'est une monnaie sans valeur. Le mot se met à courir comme un furet, de main en main, de bouche en bouche, sans portée de signification autre que circonstancielle, polémique, juste pendant l'instant où le mot est utilisé. Et c'est pour ça que j'avais ajouté confiscation des mots, des images et du temps.
Et du temps, parce que vous précisez bien que ce qu'on appelle le temps réel, hein, l'information en temps réel, dans son immédiateté, elle pulvérise la réalité du temps.
C'est ça, le flux. Le flux de l'information, l'accélération des images et des mots, la précipitation, vous savez, le mot précipitation est lui-même construit sur une racine latine qui veut dire la tête la première. On tombe la tête la première. L'accélération, c'est ce qui décapite chacun, chaque citoyen, et lui enlève sa capacité de penser.
Sa pensée critique, finalement.
Sa pensée critique et ce qu'implique de patience. Le travail de la pensée et l'échange des idées et la construction d'un conflit dans un débat porteur d'espoir, porteur d'une construction.
Et non pas porteur de terreur.
Pas porteur de terreur, parce que la terreur, c'est la guerre. Le débat et la pensée, c'est le conflit au sens où la parole peut s'en emparer. Il ne s'agit pas d'arriver à un consensus, il ne s'agit pas d'arriver à un chorus et à un aplatissement et à une négation des conflits. Il s'agit de construire le partage dans un dispositif conflictuel.
Pour qu'il y ait tension, pour qu'il y ait débat, pour qu'il y ait discussion, pour qu'il y ait conflit, il faut que chacun puisse se réapproprier ses mots et que ces mots aient un sens. On écoute quelques extraits de l'actualité où ce mot de radicalité, de radicalisation et de déradicalisation, a surgi.
Tout le monde parle de ça, déradicalisation, contre-radicalisation. Prend-on les choses dans le bon ordre ?
Mais alors dire que les volontaires vont se faire déradicaliser, moi ça me fait très peur des annonces comme ça.
Ce terme de déradicalisation n'est pas très beau.
En plus, il est imprononçable. Donc
il est imprononçable.
On peut bien en
voilà, là, c'était Yann Moix qui lui disait « c'est imprononçable » et il s'adressait à Manuel Valls, alors Premier ministre. Vous, vous dites « la radicalisation des islamistes est devenue une évidence. Les médias s'en sont emparés goulûment. » Pour vous, ça n'est pas une évidence, l'utilisation de ce mot. Pas du tout même. Elle est même totalement inacceptable. Pourquoi ?
C'est inacceptable parce que il y a quelque chose de l'ordre du désir qui s'inscrit chez tout sujet de l'action, fût-il le sujet d'une action violente et meurtrière. Donc la radicalité du désir est quelque chose qu'il faut respecter, préserver, orienter et accueillir de façon à lui donner les ressources d'un autre usage que celui du suicide ou du meurtre. La radicalité, pour moi, ne peut pas être le synonyme de la violence et de la terreur. Elle est, au contraire, pour moi, voisine, associée au désir de nouveauté, à l'exigence d'une jeunesse qui souhaite donner du sens à son existence et qui ne le trouve pas.
Vous vous dites, la radicalité, finalement, c'est la dignité de la pensée, c'est la liberté d'agir au cœur de la vie politique, et on dénature de manière monstrueuse ce terme en parlant d'un endoctrinement progressif. On dénature totalement ce terme de radicalité.
On le dénature, c'est ce que j'appelle des torsions,
oui,
et qui portent atteinte au potentiel de désir, de liberté, de rêve, d'espoir et donc d'action transformatrice qui existe en tout être humain, en tout citoyen, quelle que soit sa place dans la société. Donc oui, je conteste le fait d'associer cette radicalité à la terreur et à l'asservissement et à la violence.
Parmi les horreurs, les torsions inacceptables de la langue que rabâchent les médias, il y a pour vous aussi quelque chose de tout à fait barbare qui est le choc des cultures.
Oui.
Vous dites la culture a horreur du choc et oui, quand deux groupes se font la guerre, contrairement à ce qu'on nous dit au journal télévisé, ce n'est jamais sous l'angle de la culture et encore moins pour des raisons culturelles.
Bien sûr, les groupes qui se font la guerre sont pour des raisons économiques, des enjeux financiers, des enjeux d'influence idéologique. Cette idée du choc des cultures qui vient directement des États-Unis a surgi après le 11 septembre.
Mmh.
C'est une formule barbare. C'est une formule barbare qui n'a jamais pris en compte le fait que c'est au contraire par ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire l'échange des signes, l'échange des symboles, l'échange des images, l'échange des paroles, la traduction des langues, que l'on peut construire une vie politique en commun, que l'on peut partager un monde.
Alors, autre présupposé journalistique du moment contre lequel vous vous élevez, vous dites la question que posent les images de ces crimes fanatiques, ce n'est pas celle de leur radicalité, encore une fois, c'est celle de leur publicité.
C'est de leur publicité, de leur répétition et de leur mimétisme. On a suffisamment dit que la violence des images qui venaient de Daesh, essentiellement, sont des images de propagande, de communication, qui sont faites pour faire peur et en même temps pour fasciner. Elles sont faites pour le monde occidental. Et celles qui sont destinées à leur propre monde sont différentes. Elles sont beaucoup plus liées à un endoctrinement de type religieux, spirituel ou héroïque. Mm-hmm. Voilà.
Pourquoi vous dites et vous répétez à longueur de texte dans chacun de vos ouvrages que c'est un combat sans fin de faire entendre que l'image n'est pas un règne ?
Parce que la liberté n'est pas un règne non plus. Il faut renoncer à régner si l'on veut partager. La notion de règne, je l'entends à ce moment-là, sous le signe de la domination.
Mm-hmm.
J'ai trop entendu dire que nous vivons sous la souveraineté, le règne, la domination des images. Non. Donc j'ai été presque dans le sillage même de ce que le travail de Serge Danet a développé avec un talent considérable, c'est de distinguer.
C'était un grand critique de cinéma.
Formidable, oui. Donc c'est de distinguer, alors radicalement, ce qu'il en est de la construction du regard dans ce que l'on donne à voir et ce que l'on donne à partager pour donner à penser, de le distinguer d'un flux des techniques de communication audiovisuelle, c'est-à-dire de tout ce régime de diffusion purement visuelle qui ne s'adresse absolument pas à la pensée, qui est un régime plutôt pulsionnel, un régime balistique, d'accélération et d'apnée visuelle et d'apnée dans la respiration. Il y a une oralité goulue, hein, vous parliez du mot goulûment, oui, que j'ai employé, pour dire qu'il y a dans le désir de voir une dimension boulimique, goulue, asphyxiante, qui conduit les sujets de l'obésité physique et de l'obésité visuelle, et de la suralimentation visuelle, qui coupe la faim. C'est cela que j'essaye d'évoquer derrière le mot radicalité. Tout régime de saturation, de combler le désir de voir, de surexposition, de sursonorisation, sont autant de façons d'endormissement, de paralysie et quasiment de cadavérisation des citoyens.
Voilà, et vous,
mais
vous dites,
on résiste, hein,
défendre la radicalité véritable, oui, c'est inséparable de la force irrésistible du rire et de la joie, alors que c'est la colère et le dégoût qui vous avaient poussé à écrire ce livre.
Pour témoigner du fait, ouais, que malgré tout ce tableau terriblement tyrannique, néo-fascisant, comme l'avait prévu Pasolini, que devant ce tableau catastrophique d'engourdissement de la pensée et de démission de la vie politique, je veux témoigner non seulement du fait que je tiens à résister, mais c'est que je parle au nom de tous ceux qui résistent.
Et vous dites, la radicalité, ce n'est pas un progrès, c'est un des noms de notre affect politique et c'est notre accueil face à tout ce qui arrive. C'est la capacité de redonner à chacun sa pensée critique et sa liberté d'agir.
Oui, et je tiens à dire que cette capacité continue d'exister et de résister partout, invisiblement, s'il le faut, clandestinement, mais en tous les cas, ça existe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les résistances n'occupent pas la scène du spectacle, de la télévision, de la communication et de la surexposition médiatique, que toutes ces résistances n'existent pas. Elles sont là, elles existent, parce que cette radicalité, elle est irréductible.
Merci beaucoup, Marie-Josée Mounzin. Ce sera le mot de la fin.